Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 avril. Tiens, qu'est-ce qui se passe le 8 avril? Bonjour Gilles Danseman.
Eh, Valérie, me balancez pas, parce que je vais vous balancer le 2 avril, moi.
Ah voilà, ah, non, mais c'est l'anniversaire de Gilles, voilà.
Donc et lundi, c'était le vôtre, bon mais vous n'avez pas voulu que je vous le souhaite. Merci.
Non, mais vous aimez ça, moi j'aime pas, donc voilà. Donc,
je vous balance, Valérie.
Bon anniversaire à vous, Gilles, très bonne journée.
Je vais ouvrir champagne tout seul.
Voilà, on saute un an. On a dit qu'on sautait un an pour fêter les anniversaires, donc on garde le même âge que l'année dernière.
J'annule mon anniversaire en raison du coronavirus et je le reporte à l'année prochaine.
Absolument. Alors, on aura Philippe Etchebest, peut-être qu'il vous fera un petit gâteau pour vous, Philippe Etchebest, pour parler de la 11e saison de Top Chef, parler du confinement avec lui, puis de cet engouement des Français pour la cuisine. Et puis, on parlera évidemment du coronavirus avec un pharmacien, et puis également avec Pâques qui arrive, et les chocolatiers sont fermés, donc ils s'organisent, mais ça va être une situation très, très compliquée pour eux aussi. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir? 0826 300 300, toujours beaucoup de monde devant les JT, hein, 7 millions 5 pour TF1, France 2 6 millions 3. On a Maria de Bordeaux. Maria, qu'est-ce que vous avez regardé vous hier? Bonjour.
Oui, bonjour, j'ai regardé Brûler Notre-Dame.
Ah, c'était sur TMC, ça, c'est ça, c'est ça, voilà, c'était l'incendie de Notre-Dame. Voilà. Ça a fait 522 000 téléspectateurs, la bataille de Notre-Dame. Rémi Perdelet vient de m'envoyer l'audience en express. Ça vous a plu?
C'est-à-dire que ça m'a consterné. Quand on voit les événements et la successivité des et la chronologie, c'est-à-dire 18h18, première alarme pendant l'office, 18h50, Madame Hidalgo voit de la fumée, 19h50, la forêt est en feu, 500 tonnes de bois, de chêne du Moyen-Âge, plus 250 tonnes de plomb, ça brûle en 2 heures, chute de la flèche. Et moi, j'étais là, l'année dernière, j'ai écouté, je crois que c'était sur CNews, il y avait comme invité l'architecte en chef de la cathédrale, que je n'ai jamais revu nulle part ensuite, Benjamin Mouton, qui était architecte jusqu'en 2013 et qui expliquait que c'était juste impossible, que de toute façon, il n'y avait pas encore de travaux dans la cathédrale. Ouais. On était juste en train de poser des échafaudages. Et qu'un mégot ou un départ de feu à droite à gauche, c'était impossible sur un chêne qui est dur comme du fer. Et fin juin, le procureur Rémi Heitz dit qu'il faut écarter la piste criminelle. Donc on fait une enquête. Et tout de suite, on écarte une piste criminelle. Alors moi, je ne suis pas complotiste. Simplement, je dis, c'est bizarre qu'on écarte aussitôt. On fait une enquête.
On attend les résultats de l'enquête, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Notre-Dame, le chantier de Notre-Dame va prendre du temps à être reconstruit. Merci beaucoup, Maria, de nous avoir appelé.
À noter que Notre-Dame, le procès, les affaires en cours vous intéressent, vous allez avoir des documentaires sur France 5, sur France 2 et sur France 3 dans la semaine qui arrive. Il y en a un peu partout.
Ah oui, d'accord.
En tout cas, on arrive au un an de l'accident.
De Notre-Dame, oui.
De Notre-Dame, et il va y avoir beaucoup de documentaires. Regardez vos applis plus que vos programmes, puisqu'il y a des modifications tous les jours.
Oui, Gérard est en ligne. Bonjour Gérard.
Bonjour à vous toutes et tous.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Je vous pose la même question en souhaitant très longtemps une très belle santé.
Eh ben c'est gentil, on vous souhaite la même chose à vous et à tous nos auditeurs de Sud Radio. Alors vous avez regardé quoi hier soir?
J'ai regardé parce que ma mère a couché sous X, donc je regardais Les Enfants du Secret. C'était une belle promesse et malheureusement un rendez-vous raté. Pourtant, il y avait cette belle région bordelaise, ces vieilles pierres, ces vignes, le parfum des problèmes de riches propriétaires, quelques émotions vieillies en fût de chêne, mais tout le talent des comédiens et des acteurs, ça ne peut pas sauver une intrigue très faible, parce que, que voulez-vous, le carburant vient à manquer, et quand le réservoir est vide, ça ne marche pas.
Bon, mais vous êtes quand même resté jusqu'au bout.
C'est une grande frustration.
Ah oui. Vous êtes quand même resté jusqu'au bout.
C'est c'est dommage, il y avait tout. Il y avait tous les ingrédients. Il y avait tous les ingrédients. Choisir une si belle région pour un si petit profit, quel dommage.
Bon, bah écoutez, je sais pas si France 3 vous entend. En tout cas, ça a plutôt très bien marché. 4 millions de téléspectateurs et c'est France 3 qui est arrivé en tête hier avec ce téléfilm Les Enfants du Secret. TF1 est arrivé ensuite avec la série américaine Prodigal Son, c'est le même score que la semaine dernière. Et M6, 3 405 000 téléspectateurs pour la finale de Pékin Express avec la victoire du couple Corse Julie et Denis. C'est la meilleure audience depuis 2012, me dit notre ami Rémi Pernelet. Il y a eu beaucoup de déceptions, non, sur cette finale, Gilles.
Il y a eu pas mal de réactions, mais à noter que le couple Corse sera ce soir dans l'émission de cuisine en direct et ils vont cuisiner en direct sur M6, l'émission qui
avec cartonne, Cyril Lignac.
Avec Cyril Lignac, plus de 2 millions.
Ils vont 2 221 000. 2 221 000 téléspectateurs, ça marche très bien. Auteurs inconnus l'île d'Ouessant, c'est dur à dire. Quatrième position pour France 2, 1 100 000 de plus que la semaine dernière. Et c'est 700 000 de plus que la semaine précédente. Donc comme quoi, c'est peut-être pas la peine d'aller si loin pour faire de l'audience et pour intéresser les gens. Et cinquième position, c'est C8 avec The Mandalorian, qui est un dérivé de Star Wars.
1 500 000,
c'est pas mal du tout. Allez, on passe aux
applis. Ils verront pas la suite s'ils s'abonnent pas à Disney Plus quand même.
Alors vous avez des actions ou pas là, à Disney?
Non, pas du tout. Non, mais c'est un peu l'arnaque, au contraire. Ouais, diffuse un épisode pour donner envie à aller sur Disney Plus, mais les gens verront pas la suite. Ils ont vu le premier.
Stéphane nous pose une question. Pourquoi on trouve pas la nouvelle chaîne à la maison sur CanalSat?
Alors sur CanalSat, j'ai pas CanalSat, moi je l'ai sur Free, mais je me renseigne et je vous dis ça.
Oui, on va vous...
Toutes les box, il y a eu un petit peu
mais
de
je crois
de
qu'il y a peut-être un... Il me semble avoir vu passer, on va se renseigner Stéphane, on va vous donner la réponse. Allez, on passe au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Pour commencer le scandale du jour, si évidemment on a critiqué les Américains, vous savez Valérie, qui ont braqué les masques français, eh bien la France a braqué la France. En effet, les régions qui se sont substituées à l'État ont commandé des masques et à peine arrivés sur le tarmac, eh bien le gouvernement les a réquisitionnés. Du coup, colère du président du Conseil régional du Pays de la Loire, c'est Bruno Retailleau.
L'État est tombé dans une forme d'échec. Le fiasco des masques, c'était les déclarations en haut et sur le terrain, nous n'avions pas de masques. Et malheureusement, ils profitent des commandes des collectivités pour réquisitionner les masques lorsqu'ils arrivent sur le sol français. Alors moi, je pose deux questions. La première question, c'est comment se fait-il que les collectivités parviennent à acheminer des masques jusqu'en France et que l'État, lui, n'y parvient pas? Ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce que ces collectivités réquisitionnées, pourquoi pas? Mais encore faut-il concerter, faut-il avertir?
Le masque, objet de toutes les questions actuelles. Hier, Jean-Jacques Bourdin recevait sur BFM le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et si tout le monde devait porter un masque, eh bien la réponse étonnante d'un politique.
Je vous le dis à nouveau avec toute l'humilité qui s'impose lorsqu'on fait face à une épidémie d'un virus inconnu. La réponse, elle est peut-être, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas une réponse que vous aimez, je le sais, et ce n'est pas une réponse non plus que les Français ont l'habitude d'entendre dans la bouche d'un ministre, mais je le dis en toute humilité, la réponse est peut-être.
Et puis du coup, devant la pénurie de ces masques, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu Valérie, mais il y a des tutos qui se multiplient, comme sur Twitter, celui de Jean Zerafa. Écoutez bien.
Je prends un mouchoir que je dédouble. Je prends l'une des petites épaisseurs ici. Je le pose entre les deux feuilles de sopalin. Je ferme l'ensemble, vous voyez l'épaisseur et la finesse de la chose.
Après, pas très visuel, mais on a compris. Voilà, et puis après, il y a plein de tutos partout.
Voilà, hein. Après, il faut se méfier sur la vraie capacité de ces différents masques. Hier, dans cet avou colère de Roselyne Bachelot sur la pétition lancée, vous savez, par Philippe Douste-Blazy sur la chloroquine, hier, cette pétition a dépassé les 200 000 signataires.
Là, on a encore passé un niveau supérieur. Je n'ai jamais vu qu'une pétition était un élément de mise sur le marché d'une molécule. C'est du jamais vu. Je me demande ce que chaque pétitionnaire entend, imagine. Comprend, imagine de l'action de la chloroquine, de son cheminement thérapeutique.
C'était donc hier Roselyne Bachelot. Une semaine avant le confinement, Marine Le Pen, durant sa campagne municipale, a maintenu, vous savez, un meeting avec des milliers de militants. Hier, Pascal Praud le lui a reproché sur CNews. Évidemment, ça a fait des étincelles.
Convenez quand même que votre position ce matin serait infiniment plus forte si vous aviez tiré pour vous-même, et je le répète, vos propres militants, les conséquences de ce que vous imaginiez une catastrophe sanitaire, et notamment en arrêtant les meetings du Rassemblement National.
Oui. Monsieur Praud, votre propos est scandaleux.
Bah, non, je vous donne mon sentiment, je l'exprime.
Bien sûr. Et non, mais vous avez raison. Faites le procès de ceux qui ne sont pas au pouvoir,
non,
qui n'ont pas les éléments d'information et qui en plus ont été victimes du mensonge du gouvernement.
Madame Le Pen,
alors même que nous avons encore une fois pris position et même pris des risques.
Et puis alors, comme d'habitude, vous savez que Jean-Pierre Pernaut, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a conseillé hier dans le Trésor qu'il fallait absolument que tous les Français portent des masques. Vous savez à qui ça n'a pas plu? Ça n'a pas plu à Fida Turner. Elle a livré son analyse subtile. Fida... Ouais. Vous voulez pas que je diffuse?
Si.
Ils sont fous, je pas à mon poste. Ouais.
Je dirais qu'il n'est pas professeur, il n'est pas, il fait pas partie du CNRS, etc. Mais je dirais bah, les masques. À chacun sa philosophie. Je pense qu'il est finalement d'un point de vue positif. Je pense qu'il veut se protéger ainsi que tous les citoyens français. Mais bon, je pense pas qu'on doit tous suivre Mr. Pernaut. But I love him. Je vous aime beaucoup, d'accord. J'ai grandi avec vous.
Ah oui, c'est une grande analyse. Hein. Le football va-t-il se relever de la pandémie du coronavirus? Vous savez que Canal+ et les sponsors ont décidé de ne plus payer les clubs. Et du coup, hier, Jean-Jacques Hérault, le président de l'OM, s'est exprimé à ce sujet.
La crise touche tous les clubs. Elle touche tous les clubs parce qu'en France aujourd'hui, près de la moitié de nos revenus viennent des droits télé. Comment faire pour reprendre les matchs, peut-être à un rythme plus élevé, tous les trois jours par exemple? Est-ce qu'il faudra aussi les reprendre dans des stades vides, sans public? Je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de la part de tous les acteurs qu'il faudrait terminer le championnat, ne serait-ce que pour nos supporters. Il y a des enjeux aussi économiques. Ce serait hypocrite de les balayer, de dire qu'ils n'existent pas.
Et puis pour finir, 300 personnalités chantent à l'unisson pour les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. C'est un clip réalisé avec les stars confinées chez elles, qui sont donc reconnaissants envers les personnes des hôpitaux. Alors vous pouvez télécharger ce titre et les fonds iront donc aux hôpitaux et à cette fondation. Ce titre s'appelle « Et demain ».
Il a fallu en arriver là pour les remercier. C'est les héros du quotidien qui sont comptés. Sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort.
Mais je comprends pas, Gilles, comment on gagne de l'argent là-dessus, comment les fonds,
vous parlez de quoi ? En le téléchargeant, vous allez sur les différentes plateformes de téléchargement.
Il faut payer ?
Il faut payer, évidemment. Et donc,
je préfère peut-être aider les soignants autrement. Non, mais c'est bien, c'est toujours bien, les initiatives comme ça. Rémi Pernelet, qui nous écoute, nous signale que le président de l'OM s'appelle Jacques-Henri Hérault.
C'est ce que j'ai dit.
Voilà, vous n'avez pas dit ça tout à fait. Allez, on a Philippe Etchebest en ligne avec nous? Non, il n'est pas là. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et nous sommes ensemble jusqu'à midi et on est en ligne avec Philippe Etchebest. Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour, ça va?
Ben bien, et vous, comment ça se passe, le confinement?
Très très bien, très très bien.
Ouais. Vous êtes où?
Je suis en Dordogne, je suis à une heure de Bordeaux, dans la ferme que nous avons depuis plus de 10 ans déjà. Donc on a quoi s'occuper, il y a tous les animaux qu'il faut nourrir le matin, le soir. Ils se foutent un peu du coronavirus, donc il faut vraiment s'en occuper. Et puis c'est bien, ça va. Je fais ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Oui. Je cuisine. Chose exceptionnelle parce que je le fais jamais en temps normal. Donc là, je profite pour faire des bons petits plats à ma famille.
Voilà, c'est ça. En temps normal, vous cuisinez pas pour votre famille, ce que vous voulez dire, parce que vous avez un restaurant, et c'est vrai que, bah oui, quand on est chef, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de sa famille. Top Chef ce soir sur M6, donc présenté par Stéphane Rottenberg. Vous êtes avec Hélène Darroz, Paul Perret et Michel Sarran. C'est la 11e saison. Vous étiez venu nous en parler. Ouais. Comment vous sentez? Sur cette saison, vous avez regardé, vous regardez ou pas les épisodes qui sont diffusés?
Eh bien, pour la première fois, je regarde Top Chef, puisque voilà, je
suis à la maison.
Je fais des choses en ce moment que je ne fais pas habituellement. Donc, j'ai jamais eu le temps de regarder Top Chef, puisque je travaille moi sur ces horaires-là. Donc là, forcément, par la force des choses, je regarde Top Chef. Et c'est plutôt sympa. J'aime bien le barbu là. Il est bien celui-là. Là. J'aime bien ce...
le barbu un peu grande gueule.
Il est sympa. Il est sympa. Il a un bon fond.
Ah oui, puis,
non mais c'est bien.
Et puis dans l'épisode de la semaine dernière, on vous a vu affronter toutes les brigades et vous vous êtes fait battu. Moi j'ai été très déçu, hein, je vous l'avoue.
Ouais, alors ce qu'ils disent pas là, c'est quand même chiant, mais à un point. Un point, il me manquait. C'est Hélène qui m'a descendu. Hélène, elle m'a fusillé à la dégustation. Et j'étais à un point. Et alors, j'étais content que la brigade bleue elle passe, parce que pour le coup, c'était plutôt sympa. C'était le scénario idéal. En fait, c'est que la brigade bleue passe et que moi je sois juste derrière. Mais bon, il y a eu les je crois que c'est les violets. Hein. Ouais, c'était les violets qui étaient juste avant la brigade de Paul. Mais ça s'est joué à un point près, quoi. Ah, j'ai râlé. Mais c'est super chouette. J'adore faire ça. C'est dur, mais j'adore.
Et puis il y a Justine qui est de retour aussi. C'est dans l'épisode de ce soir, on va voir Justine qui avait été éliminée, qui revient. C'est un personnage quand même, Justine.
Elle est super, cette fille. C'est une fille qui est très solaire, qui respire la gentillesse et la joie de vivre, et ça fait du bien, surtout en ce moment.
Surtout en ce moment. En ce moment, on peut parler évidemment de l'actualité, c'est-à-dire de la façon assez brutale dont tous les restaurateurs ont dû fermer leur restaurant. On a eu Michel Sarran la semaine dernière pour l'appel qu'il a lancé avec plusieurs chefs justement pour aider les restaurateurs qui vont être, je lisais ce matin qu'il y a 35% des restaurants qui pourraient fermer. Ça va être une situation dramatique pour les restaurateurs.
Ah mais ça, moi je l'ai annoncé dès le début, hein. Je veux dire, aujourd'hui la situation des restaurateurs en France et même des commerçants, on peut englober tout, était déjà limite compte tenu des mouvements sociaux qu'il y a eu pendant une année, qu'on a subi. Ça a été très très difficile, beaucoup étaient au bord du gouffre. Ben là c'est bon, ils vont y plonger là, hein. Mais c'est une évidence, ça va être catastrophique. Il y a ce qu'on vit en ce moment, le confinement qui est compliqué, mais moi je peux vous dire qu'il y a l'après qui va être extrêmement difficile aussi. Une partie de plaisir, hein. Il va falloir se battre, il va falloir travailler beaucoup.
Mais vous vous dites
pas qu'il y a une solidarité, pardon Gilles, il y a une solidarité entre chefs. Est-ce que vous faites partie d'un groupe resto ensemble
Je suis Joanne Leclerc et Stéphanie, bien sûr, on communique ensemble régulièrement. Moi, j'avais mis l'accent aussi et surtout sur nos salariés, ceux qui vont être impactés par ce qui va se passer, parce qu'il y aura énormément de licenciements. Faut pas se leurrer, il y a des entreprises qui vont faire faillite, qui seront en cessation de paiement. Et il y a, je pense aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs qui n'ont pas eu les moyens, qui n'avaient pas suffisamment de trésorerie pour payer les salariés. Bon, c'est à eux que je pense aussi, parce que nos collaborateurs sont proches, ils sont indispensables pour nous, on en a besoin, et que ça va être dramatique pour eux aussi. Donc j'avais posté justement toute mon équipe avec un petit panneau hashtag sauver nos emplois, et j'avais invité tous les restaurateurs à le faire aussi. Il faut penser à eux, quoi. Je veux dire, mais c'est logique. Je veux dire, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés. Il faut aussi que les entreprises puissent survivre et qu'il y ait des aides de l'État. On essaie de se battre pour les assurances, mais ça va être extrêmement compliqué. Aussi, faut être clair. Le chômage partiel, avoir les on s'est battu aussi pour que nos salariés aient jusqu'à 39 heures de payer. Pourquoi eux n'auraient pas l'intégralité de leur salaire, ou en tout cas en partie, donc 84% de leur salaire, c'est pas normal. Donc il faut se battre pour eux aussi. Donc voilà, on essaye modestement. d'avoir des actions comme ça, un peu en sous-marin, je dirais. Mais je pense que le combat, il va être après.
Vous dites pas justement qu'après, à la sortie du confinement, les gens vont vouloir être dehors, de profiter de se revoir, de profiter de partager des moments, et que justement, il va avoir un volume très important dans les restaurants. Et est-ce que cet afflux de monde ne rattrapera pas ce retard? C'est ça que vous êtes en train de dire?
Alors, je vais vous dire un truc. J'appelle Paul Perret régulièrement aussi, voir comment ça se passe pour eux en Chine, à Shanghai, la reprise.
Il est reparti à Shanghai?
Tout à fait, il est reparti à Shanghai, il a rouvert ses restaurants. Aujourd'hui, la plus grosse de ses brasseries tourne à 50% et l'autre brasserie tourne à 10%. D'accord? Donc, la reprise, oui, mais c'est une reprise qui est extrêmement lente. Je pense qu'il y a un traumatisme qui va être présent de la part des gens. Les gens, quand même, auront peur de sortir. Et je pense que les restaurateurs, on sera les derniers endroits à être ouverts. Après le confinement. Je sais pas. La mentalité chinoise n'est pas la même que la mentalité française, bien sûr. Mais je m'attends pas à une reprise euphorique et les gens vont sortir dans la rue et se ruer vers les restaurants. J'y crois pas trop.
Non. Puis il va y avoir un problème financier aussi. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens qui vont être au chômage.
Le problème financier, mais va être colossal. Mais il va être colossal. Je sais pas comment on va pouvoir se relever de ça. Il va falloir, ou alors un effort collectif de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, tous les Français, à bosser un peu plus. Vous savez, les Chinois, ce qui va se passer, les Chinois, eux, ils ont une mentalité qui est très différente. Eux, ils vont bosser 60 heures par semaine, ça va pas leur faire peur. Parce que eux, ils vont vouloir vite reprendre leur système économique comme ça l'était avant. En France, je suis pas convaincu de ça. Non. Ça va pas se passer de la même manière.
Ça va être plus compliqué. Vous êtes pas mis aux recettes sur Internet comme beaucoup de chefs? Vous faites des recettes ou pas? Non, vous n'avez pas eu envie?
Non, j'en fais pas tellement. Vous savez, je vis un confinement très particulier. Une fois de plus, je fais ce que je n'ai pas l'habitude et le temps de faire en temps normal. Alors justement, je profite de ça. Je profite de ma famille. Je leur fais à manger. Je fais de la musique. Je m'occupe des animaux. Je m'occupe de la ferme. J'ai plein de travail à faire sur l'extérieur aussi. Alors j'ai la chance d'avoir cet extérieur-là. Mais les journées, elles passent très vite et j'ai beaucoup de boulot. Et le matin, on s'attarde à traiter les mails et justement à gérer les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer après et anticiper justement la reprise avec les restaurateurs et avec les groupements de restaurateurs avec qui on échange. Donc je fais pas trop de trucs comme ça.
Une dernière question, vous allez manger quoi ce midi? Qu'est-ce qu'on va manger si je venais?
Alors, à midi, je sais pas encore, mais je peux vous dire qu'hier, on s'est régalé. J'ai fait une petite tarte avec mon fils, cette tarte pomme abricot, et j'ai fait une belle quiche Lorraine, qui était super bonne. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que son affaire à midi, je m'en rappelle plus. Mais je sais pas, après j'ouvre le frigo, je regarde, et puis voilà, je fais des choses.
C'est l'inspiration. Ce soir, on vous retrouve. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Etchebest. Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir sur M6 aux côtés d'Hélène Darroze, de Paul Perret et de Michel Saran, évidemment avec Stéphane Rothenberg à la présentation pour Top Chef. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Merci à vous. Merci.
Je vous donne deux, trois petites infos. Vous savez, le petit journal de la solidarité. Alors justement, on parlait des entreprises qui font faillite ou qui sont dans difficulté. Je voulais vous rappeler qu'il y a une hotline qui s'appelle Solidarité Entreprise Covid sur toutes les mesures gouvernementales et ce qui a été mis en place. Alors il y a un numéro vert gratuit pour toutes les entreprises et vous serez mis en contact aussi avec des administrateurs judiciaires et des mandataires qui sont au fait même de comment vous préserver. Pour cela, vous appelez le 0800 942 564, 0800 942 564 si vous avez une entreprise. Et pour tous les chefs d'entreprise, des entreprises, des PME ou autres, on vous répondra. Autre petite information qui a été mise en place par... alors vous savez que face, il y a les fermetures des auto-écoles et des gens qui passaient leur permis
de conduire
et qui du coup n'ont plus leur cours de code. Eh bien, le l'ECF, l'école de conduite française, les étoclubs du Club Rousseau ont mis en place une chaîne de télévision qui est disponible avec des pastilles de 1 à 3 minutes de conduite, de conseils, et vous pouvez passer des tests et également sur des questions portant sur le code. J'ai été voir, c'est très très bien fait.
Redonnez le nom du site.
Alors c'est la chaîne, je mettrai l'adresse, hein, c'est sur YouTube, ça s'appelle Mon auto-école à la maison. Ça a été mis en place donc par le code Rousseau et par les écoles françaises. Si vous étiez en train de passer votre permis et que vous ne pouvez plus du coup. Et puis dernière petite information dans ce journal, vous savez la marque Ravensburger a lancé et essayé un site qui s'appelle La Maison avec Ravensburger. Alors là pour le coup c'est pas les jeux de société comme je vous parlais hier, mais c'est des tutos pour faire de la pâte à sel, des bracelets brésiliens et même du yoga. Et puis il y a une application pour faire du puzzle, toujours pour essayer de passer du temps avec vos enfants. Voilà, c'était les trois petites infos du jour.
Merci beaucoup, Gilles. On reste dans le domaine de la restauration. Vous savez que tous les jours à 10h30, on met en lumière une entreprise qui œuvre pour la solidarité. Et on est en ligne avec Grégory Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Bagel Corner. Donc Bagel Corner, comme son nom l'indique, ce sont des petits restaurants dans lesquels on peut acheter des bagels. Et vous avez lancé une opération, vous allez nous raconter ça dans un instant, pour soutenir, qui est au profit de la fondation APHP. Alors racontez-nous un petit peu déjà, peut-être vous, comment ça se passe. Vous avez entendu certainement Philippe Etchebest. Vous êtes dans de la vente à emporter. Vous avez continué à travailler. Comment ça se passe?
Alors déjà, l'histoire Bagel Corner, c'est avant tout une histoire de trois amis. On a monté en fait la société à la sortie de notre école. On a une trentaine d'années, on a démarré ça quand on avait 23 ans. On a fait un premier restaurant en 2011. On va en avoir une soixantaine à la fin 2020. On en veut une centaine fin 2024 et 250 à terme pour devenir le leader européen de la vente de bagels. Aujourd'hui, il est clair que en fait, depuis le 16 mars, nous en fait, on a eu un gros coup sur l'activité, hein, parce que les restaurants sont intégralement fermés. En fait, on a fait le choix très rapidement de vraiment stopper l'activité. Pour nous, en fait, on a des vraies valeurs humaines chez Bagel Corner, et du coup, on voulait vraiment tout faire pour que le virus ne se répande pas et préserver la santé des Français.
D'accord. Et donc, vous avez mis en place donc une opération qui permet de reverser à la Fondation Assistance Publique Hôpitaux de Paris 15%, c'est ça, du prix d'un bagel acheté.
Exactement. En fait, en parallèle justement d'arrêter l'activité pour justement préserver la santé des Français, on s'est dit on peut faire plus. Et du coup, on a en fait lancé une opération, une campagne Ulule, qui est accessible sur notre site, hein, www.bagelcorner.fr, où en fait, vous commandez des bagels en avance. Donc on a aujourd'hui une cinquantaine de restaurants partout en France, à Lille, Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg, dans toutes les grandes villes. Et sur cet argent-là que vous commandez pour les bagels, on reverse 15% à la fondation APHP.
D'accord. Donc et après, une fois que le confinement sera terminé, on ira chercher les bagels qu'on a achetés.
Exactement. Alors en fait, dès que l'opération est finie, on vous envoie tous un bon pour le montant de la somme que vous avez cotisé. Et après, du coup, vous avez le bon, vous pouvez aller au restaurant et commander comme classiquement, comme c'était le cas avant. L'avantage, en fait, c'est que du coup, par contre, le chèque à la PHP, il part tout de suite pour justement combattre le virus.
D'accord. Et ça fonctionne bien? Vous avez lancé quand cette opération?
Alors, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de clients de la marque Bagel Corner qui nous font confiance et qui du coup soutiennent aussi la marque et qui voient l'élan de la solidarité. Et donc du coup, on a déjà rempli 35% de l'objectif. La campagne a démarré il y a 10 jours et il nous reste 21 jours. C'est environ une trentaine de jours de campagne.
D'accord.
Donc, c'est accessible sur Ulule ou sur notre site internet. On l'a mis ou sur notre homepage de notre site, www.bagelcorner.fr.
Donc l'objectif, c'est du fonds d'urgence pour la PHP, pour mobiliser, pour le soutien aux équipes et financement de la recherche sur le traitement contre le Covid. Merci beaucoup Grégory Clément, cofondateur de Bagel Corner. Et puis c'est bon les bagels, moi j'aime bien. Voilà, donc on peut participer tout en se faisant plaisir, parce qu'on sera content d'en manger des bagels au moment du déconfinement. Merci à vous.
Merci.
Tout de suite, on change complètement de sujet, mais on reste toujours évidemment dans cette actualité du coronavirus. On est en ligne avec Gilles Bonnefond. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien à Montélimar, dans la Drôme, et vous êtes président de l'USPO, c'est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On voulait vous avoir ce matin sur Sud Radio pour faire le point un petit peu sur ce qui se passe dans les pharmacies et puis sur cette vente de masques. Quelle est la demande qui revient le plus souvent aujourd'hui quand on rentre dans une pharmacie ?
Masque et gel hydroalcoolique. Voilà les deux demandes classiques. Mais c'est normal, hein, puisque ce sont deux gestes barrières. Alors c'est vrai que l'annonce du gouvernement ce week-end sur l'évolution de la stratégie sur les masques nous a mis un petit peu en difficulté lundi, puisqu'on a eu beaucoup de demandes de masques, bien évidemment, et la population ne comprend pas pourquoi on n'a pas de masques. C'est embêtant.
C'est complètement absurde.
Voilà, on est très embêté. Donc, ce qu'on rappelle à la population, c'est que d'abord, on n'en a pas. Les seuls que l'on a, ce sont des masques chirurgicaux et FFP2, et c'est uniquement à destination des professions de santé, plus les services d'aide à domicile maintenant, puisque c'est nous qui allons aussi les distribuer pour les aidants à domicile, mais ce n'est que pour cette catégorie de professionnels de santé ou assimilés.
Après, et comment ça se passe ? Donc eux, ils viennent dans la pharmacie, voilà. Vous montrent leur carte professionnelle ?
Voilà, on tient un registre, hein, des entrées, des sorties, 18 par professionnel par semaine pour les infirmiers et les médecins, 6 pour les kinés, 6 pour les sages-femmes, on est au masque près. Et on doit rendre compte pour savoir à qui on l'a donné et combien on en a reçu. Et on est en train d'essayer de mettre en place un outil automatique pour gérer ça. Donc vous voyez, on en est à ce stade d'éviter un gaspillage et un stockage de masques dans des endroits où on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on les reçoit au fil de l'eau. Alors maintenant, ça marche assez bien avec les grossistes répartiteurs, mais on reçoit semaine par semaine pour éviter d'avoir du stock perdu.
Du stock, oui. Et donc, vous, ça vous a quand même mis en difficulté, cette annonce autour des masques. C'est-à-dire que les Français ont cru qu'on allait pouvoir en trouver facilement dans les pharmacies, ce qui n'est évidemment pas le cas.
C'est ce message qui est passé ce week-end. Et effectivement, lundi, c'était des demandes incessantes. Bon, on nous a dit que ça y est, vous allez pouvoir nous donner des masques. Donc, nous, ce qu'on dit au pouvoir public, simplement, c'est que... D'abord, si les masques FFP2 et chirurgicaux sont réservés aux professionnels de santé, il faut le dire, que ce soit très clair, et on ne peut pas en vendre ou en donner à la population. Ensuite, il y a les masques, les fameux masques tissus, qui commencent à avoir des normes de filtration, donc c'est bien, il faut qu'ils soient normés. Un pour la population, comme les policiers, les caissières, qui sont en contact avec la population, avec un niveau de filtration élevé. Et ensuite, un autre type de masque avec un niveau de filtration plus faible, mais quand même qui filtre, donc avec une norme. Donc nous, on est prêts, bien sûr, si cette stratégie se développe et que les industriels de lingerie, de couture, commencent à industrialiser ces masques, et c'est très bien parce que ça leur fait de l'activité, ces masques en tissu, bien si on doit les mettre à disposition en pharmacie, nous sommes prêts à le faire, mais... On demande aussi à ce que le prix soit encadré. Comme ça, il n'y aura pas de débat sur les prix et de différence sur les prix. Quel type de masque à quelle population ?
Au même prix, oui, c'est ça. Le gel hydroalcoolique, vous en avez suffisamment maintenant ?
Alors, ça commence à revenir en officine. Là aussi, le prix a été encadré et c'est très bien. Hein, c'est même nous qui t'avions demandé. Les pharmaciens arrivent à préparer...
J'ai vu deux, trois petites choses pas très catholiques, si on peut dire, d'un pharmacien qui disait « Oui, mais moi, je l'ai fait avec des huiles essentielles, machin, donc je mets 3 euros de plus. Je pense que dans l'ensemble, ça a été respecté, mais...
Voilà. On a fait un rappel en disant que la préparation, c'était une formule qui était la formule OMS. C'est la seule formule où nous sommes habilités à fabriquer du solutif hydroalcoolique. La formule est fixe, on ne peut pas rajouter des choses, et derrière, le prix est encadré, y compris pour la préparation artisanale, puisqu'on a obtenu des coefficients permettant de fixer le prix également quand, en fonction du volume, quand c'est préparé à l'officine. Mais ce n'est pas parce qu'on rajoute un parfum ou une huile essentielle que l'on peut en profiter pour augmenter les prix, ça c'est interdit, et d'ailleurs ça ne correspond pas à la formule.
Vous avez aussi été sous tension avec l'affaire de l'hydrochloroquine, où là, vous avez eu beaucoup de demandes également.
Oui, il y a eu la période où le décret qui encadrait la prescription et la dispensation d'hydrochloroquine n'était pas paru. Et dans la semaine, on a eu une demande qui a été multipliée par 3. Sur prescription médicale, puisque ce médicament est sur prescription médicale. Donc, on allait très rapidement être en rupture de stock pour les patients qui en ont besoin, qui sont des patients chroniques, qui ont des rhumatismes, qui ont un lupus, et ces patients allaient se retrouver en rupture. Donc, l'État a pris une décision très claire, interdiction de prescrire pour les médecins généralistes pour l'indication Covid, et nous, interdiction de dispenser. Alors du coup, ça s'est vite arrêté, parce que voilà, le message était très clair, et on attend maintenant les résultats des différents tests pour savoir quelle stratégie on adopte. Mais en tout cas, on a calmé l'affaire. Ce qui a rassuré la population, ça a été le plus important, mais ça a été très discret. C'est que on a pu dire à la population que si vous êtes malade et que vous avez un traitement chronique, les pharmacies vont rester ouvertes et votre traitement, même si votre ordonnance arrive à péremption, on se met d'accord avec le médecin pour pouvoir assurer la continuité des soins. Donc du coup, toute la population chronique qui était assez anxieuse en disant « mais est-ce que j'aurai des médicaments, je ne peux pas arrêter ce médicament, etc. » Non, on leur dit « la pharmacie reste ouverte ». Et on s'est mis d'accord avec les médecins pour pas qu'il y ait une interruption de vos traitements. Et donc ça a vraiment apaisé la demande en pharmacie. Donc du coup, on a une baisse d'activité, comme tous les autres, bien évidemment. Mais les patients sont rassurés. Et souvent, ce que l'on fait d'ailleurs, les patients qui veulent pas sortir, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, nous demandent de les livrer à domicile.
Oui. On a une auditrice qui nous dit que son assistante, elle a quelqu'un qui vient chez elle, s'est vu refuser des masques parce qu'elle n'était pas prioritaire et donc elle est venue avec un masque qui datait de la semaine précédente, quoi. Donc elle est auxiliaire de vie, donc les auxiliaires de vie ne sont pas considérés comme prioritaires ?
Alors ça y est, ça vient de changer. Jusqu'à maintenant, les auxiliaires de vie pouvaient avoir des masques ou par leur employeur ou par l'ARS. Là, pour les personnes qui n'appartiennent pas à des grosses structures, ils vont pouvoir venir les chercher à la pharmacie, et ça date d'hier.
D'hier, donc, voilà. On dit à Corinne que son assistante, normalement, de vie, doit pouvoir se procurer des masques. Le Doliprane, il y a eu aussi une sorte de folie à un moment, ça s'est tassé.
Oui, alors...
demande de Doliprane.
Ce sont les pharmaciens qui ont demandé au pouvoir public de réguler, parce qu'on avait peur que les personnes stockent. Et donc, quand on stocke, on crée de la rupture. Donc, c'est une boîte si on n'a pas de symptômes, deux boîtes si on a un symptôme, interdiction de vente du paracétamol sur Internet. Donc, du coup, ça a permis d'avoir des stocks stabilisés et d'anticiper sur la durée du confinement.
Merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Bravo à vous et aux pharmaciens qui sont là, qui sont sur le pont, qui sont ouverts, qui répondent gentiment aux questions. C'est pas toujours facile. Donc merci Gilles Bonnefond d'être intervenu, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Et donc voilà. Alors je sais pas. Il y a un débat autour des masques pour les AVS. Visiblement, en tout cas, ce que vient de nous dire le président des pharmaciens, c'est que les masques seraient disponible pour les auxiliaires de vie, donc en pharmacie. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de Pâques et des chocolats, des chocolatiers qui vont être eux aussi à la peine cette semaine. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va revenir sur ces réquisitions de masques. Vous êtes nombreux à nous poser la question, on l'a un tout petit peu évoqué, mais les masques réquisitionnés, les régions qui arrivent à se faire livrer des masques et l'État qui les réquisitionne. On va parler de ça, on va parler du confinement, beaucoup, beaucoup de sujets encore, du tracking pour les gens qui ont été atteints par le Covid. On en parlera à partir de 11h. On est en ligne avec Frédéric Chambaud. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chocolatier à Paris, c'est la maison Fouquet, et vous êtes également président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, avec des chocolatiers qui voient arriver Pâques lundi prochain dans une situation très particulière. Racontez-nous un petit peu ce paradoxe, vous avez du boulot, mais en même temps, ça va être compliqué de vendre vos chocolats, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est l'ironie de la situation, effectivement. Lorsque le confinement a été décrété le 15 mars, une immense majorité des professionnels du chocolat ont fermé, comme beaucoup de commerces, et ont recommencé doucement à ouvrir à partir du début de la semaine dernière, parce que certains clients réclamaient du chocolat pour Pâques. Et cette semaine, c'est effectivement la tendance est un peu inversée. Il y a une majorité des artisans qui ont réouvert parce qu'il y a de l'activité qui n'est évidemment pas l'activité classique d'une semaine de Pâques, ouais. Loin s'en faut, mais il y a une demande parce que c'est si ça n'a pas été essentiel dans les premiers temps, ça devient essentiel pour le moral, le chocolat.
Ouais. Mais vous avez le droit ou pas légalement d'ouvrir vos boutiques?
Ah oui, totalement. Il y a eu une confusion au début, puisqu'effectivement le gouvernement a parlé de commerce essentiel, non essentiel, ouais, alimentaire. Ouais. Le chocolatier fait partie de l'univers alimentaire des commerces alimentaires, et donc dans l'arrêté du 15 mars, le chocolatier, confiseur, glacier, pâtissier a le droit d'ouvrir sa boutique, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
D'accord, mais en même temps, beaucoup de chocolatiers ont voulu préserver leur personnel, et donc ils se retrouvent souvent seuls, c'est ça, en n'ayant qu'une vendeuse ou qu'un vendeur dans la boutique.
Oui, c'est tout à fait ça. Si je prends l'exemple de notre chocolaterie, c'est moi qui fais les livraisons, c'est ma sœur qui co-dirige, qui est au magasin. On a sollicité une vendeuse quelques heures par jour, mais ça fonctionne comme ça. L'essentiel a été de protéger les salariés, et donc la plupart d'entre eux sont en activité partielle.
Et qui est-ce qui fabrique les chocolats?
Alors, pas qu'à ce site particulier, que ça demande beaucoup de préparation, et que lorsque le confinement a été décrété, dans la plupart des cas, tout était déjà fait, donc pour une grande partie. Ouais. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est déjà d'essayer de vendre ce qu'on a fabriqué. Ouais. Alors il se trouve que dans certains cas, effectivement, on relance le labo, et c'est le cas pour moi aujourd'hui, parce qu'il y a, quelques commandes d'objets qui n'avaient pas été fabriqués, donc on relance le laboratoire. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est déjà d'essayer de vendre ce qui a été fabriqué.
Oui, et donc on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui font de la vente par correspondance, donc on est mercredi, il est toujours temps de commander en ligne, et que vos clients sont plutôt contents d'avoir du chocolat, hein. C'est ce que Mickaël, nos auditeurs, nous dit, le chocolat étant bon contre la dépression, cette industrie devrait être prioritaire, je suis d'accord avec lui.
Et Claudine nous dit,
si les tabacs sont ouverts, pourquoi pas les chocolatiers, c'est évident. Alors c'est vrai que la complexité, vous l'avez dit, vous êtes un commerce alimentaire, donc vous pourriez être ouvert, sauf que la difficulté, c'est la contagion de la maladie, donc de garder du personnel nombreux dans des cuisines, enfin dans des laboratoires qui sont pas forcément très grands, c'est ça, non? C'est pour ça que les chocolatiers, en fait, n'arrivent pas forcément à ouvrir.
Ah ben, ceux qui ouvrent de toute façon ne peuvent le faire que parce qu'ils sont capables de mettre en place les préconisations de sécurité sanitaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et effectivement, bon nombre de chocolatiers ont des petits laboratoires, et dans ces cas-là, ça peut être difficile d'ouvrir à moins d'avoir éventuellement qu'une personne dans le laboratoire. Donc de toute façon, la condition nécessaire pour ouvrir, c'est d'être capable de mettre en place toutes les dispositions qui sont imposées par le gouvernement. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'accord. Après, commercialement, ça a plus ou moins de sens. Bon.
Ouais, c'est ça. Un auditeur nous dit, ah bon, c'est ouvert partout pour les chocolatiers. Non, c'est pas ouvert partout. C'est compliqué pour vous d'ouvrir partout, et c'est pas. Il faut se renseigner, en fait. Hein.
Il faut se renseigner. Alors, on a un site qui est le site de la Confédération des chocolatiers confiseurs, sur lequel on trouve les chocolateries ouvertes. Il y a quelques initiatives de plateformes sur lesquelles les chocolatiers s'inscrivent et qui permettent de recenser l'ensemble des professionnels qui sont ouverts. Donc non, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que tous les chocolatiers qui sont ouverts, ça dépend, c'est très local. Un chocolatier qui est en centre-ville d'une petite ville près d'un marché, il aura un trafic que n'aura pas un chocolatier qui est dans un quartier d'une grande ville de bureaux, par exemple. Cela étant, vous le disiez tout à l'heure, on s'est très vite organisé pour mettre en place de la vente.
Oui, des services de livraison, de vente à distance. Voilà.
Via des canaux assez différents de ce qu'on a l'habitude de pratiquer, nous, artisans chocolatiers, à savoir le click and collect. Il y en a certains qui ont organisé du drive. On a reconfiguré les sites internet dans certains cas pour proposer des retraits magasins, des livraisons dans des périmètres beaucoup plus larges. Donc, on s'est organisé pour au moins essayer de limiter la casse.
Oui, Jean-Marc nous dit vous créez l'envie. Crée l'envie parce que c'est bon le chocolat. Parce qu'il faut dire aussi que c'est quelque part un acte de solidarité, puisque Pâques, c'est une période très très importante pour les chocolatiers, et qu'après Pâques, c'est beaucoup plus creux pour vous. C'est-à-dire qu'il y a pas de d'occasion d'acheter du chocolat après Pâques, hormis de se faire plaisir.
Non, voilà, effectivement, il y a deux pics de saisonnalité pour les chocolatiers. Noël, qui est le premier, et Pâques, qui est le second, mais tout à fait important. Et sur l'année, ces deux périodes-là permettent de se constituer la trésorerie, en l'occurrence le trésor de guerre, qui permet de se maintenir sur les mois très creux qui vont arriver, notamment pendant l'été. Ouais.
Donc, et certains vont être en difficulté. De ce que vous savez, on a évoqué avec Philippe Etchebest le cas des restaurateurs. Les chocolatiers aujourd'hui qui sont en difficulté, est-ce qu'ils bénéficient ? Est-ce que les banques jouent le jeu ou pas ?
C'est un autre sujet. Alors, il est évident que certains chocolatiers vont être en difficulté. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que je vous disais l'ironie de la situation, c'est Pâques va pas être bon, mais malgré tout, on a beaucoup de livraisons et d'expéditions cette semaine, donc on a un peu le nez dans le guidon, mais on se comptera à la sortie de la crise et dans les 6 mois qui viennent, et on sera très vigilants, nous, au sein de la Confédération, à faire ce qu'il faut pour aider ceux qui sont en difficulté et à défendre leurs intérêts auprès du gouvernement, notamment qu'ils tiennent toutes les promesses qui sont faites. Et c'est l'occasion, effectivement, de parler de ce fameux PGE qui est cautionné par la BPI. Oui. Aujourd'hui, on est vigilant, on est en train de commencer à essayer de remonter les informations. On n'est pas certain que toutes les banques jouent le jeu au même niveau, vous voyez. Parce que les critères d'éligibilité à ces fameux prêts garantis par l'État, ils sont mis en œuvre par les banques, hein, ils sont très locaux. Donc toutes ne mettent pas le même niveau d'exigence à leurs critères d'exigibilité. On verra après, on sera vigilant et là c'est le rôle de la Confédération de défendre les intérêts des professionnels.
D'accord. Est-ce qu'il y a une tendance pour Pâques cette année, plus de cloches, plus de poules, plus d'œufs? Est-ce qu'il y a un best-seller cette année chez vous?
Il y a zéro tendance. Il y a zéro tendance dans le chocolat. Les clients sont géniaux parce que figurez-vous qu'on avait quand même déjà préparé et fabriqué pas mal de choses. Et qu'on arrive parfois, on est parfois en rupture sur certains petits sujets, certains œufs, certaines tailles. Mmh. Les clients sont extrêmement compréhensifs, ils sont charmants. Mmh. On remplace la cloche par le lapin, par la poule, par le hibou, par je ne sais quoi. Et pour vous dire, moi qui fais les livraisons toute la journée sur Paris et la grande région parisienne, ils sont tout à fait ravis de nous accueillir avec les chocolats de Pâques.
Et alors, est-ce qu'il y a un vrai débat chocolat noir, chocolat au lait? Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre?
Il n'y a pas de débat, il y a du très bon chocolat noir et de l'excellent chocolat au lait. Cela étant pour Pâques, effectivement, comme c'est une fête qui est plutôt orientée enfant, c'est vrai qu'on a tendance à faire plus de moulage lait, pour le coup.
Les gens préfèrent, c'est plus doux.
Disons que c'est plus adapté aux enfants. Et comme Pâques, c'est une fête qui fait participer largement les enfants à travers les chasses aux œufs, les choses comme ça, on a tendance à faire un peu plus de moulage lait à la période de Pâques. Ouais.
Et un auditeur nous dit du chocolat, pas du Kinder. Alors effectivement, après, la facilité, c'est d'aller en grande surface. Mais pensez qu'on a la chance d'avoir des chocolatiers. Il y a la Belgique aussi qui est très fort en chocolat, mais on a la chance d'avoir des artisans chocolatiers. Donc même si parfois c'est un petit peu plus cher, c'est quand même beaucoup, beaucoup meilleur. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est bien, bien meilleur qu'effectivement souvent les chocolats industriels. Donc soutenons nos chocolatiers. Renseignez-vous. vous pour savoir où sont les confiseurs chocolatiers ouverts. Merci beaucoup Frédéric Chambaud, bon courage à vous dans vos livraisons. Cela dit, ça roule en ce moment dans Paris, il n'y a pas grand monde, non ?
Ah ouais, c'est un désavantage de la situation, ça roule et les gens sont ravis de nous voir arriver.
Donc vous êtes chocolatier, c'est la Maison Fouquet et présidente de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On va parler de sujet. Merci à vous. On va parler de sujets un petit peu plus polémiques dans un instant avec les débatteurs. Je vous attends sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.